Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Flora Messi.
Il est 10h07, vous êtes bien dans les grandes gueules du sport sur RMC. Bonne fête à tous, si vous nous rejoignez, on vous accompagne toute la matinée jusqu'à midi avec Alizé Cornet, avec Fred Weiss, avec Christophe Cessieux. Dans quelques jours maintenant, vous le savez, on sera en 2026. L'occasion de jeter un petit coup d'œil dans le rétro pour revenir sur les principaux événements marquants de cette année 2025. On vous attend au 32-16 et sur le compte X de RMC pour voter et participer. Donnez-nous votre avis aussi. Tout de suite, ce sont les GG qui vont vous donner le leur.
Pauline Ferrand-Prévot qui va donner les derniers coups de pédale. La voilà, elle vient de passer la ligne d'arrivée, les bras en l'air et le sourire évidemment de Pauline Ferrand-Prévot qui s'adjuge l'étape reine aujourd'hui au col de la Madeleine. Mais surtout, elle endosse ce maillot jaune avec des écarts monstrueux. Plus de 2 minutes d'avance, Pauline Ferrand-Prévot, seule au monde, reine de ce Tour de France femme. Aujourd'hui, c'était elle la plus grande. C'est une géante de ce sport français, Pauline Ferrand-Prévot, qui s'impose ici au col de la Madeleine.
Oh, il finit sur un passif de coup droit, Carlos Alcaraz. Cette finale mythique,
c'est incroyable.
S'achève sur un winner. Il a déjà serré la main de l'arbitre, winner, et il va aller vers son adversaire, vers son bourreau. Alcaraz remporte Roland après avoir sauvé 3 balles de match. La plus belle finale de l'histoire de Roland-Garros, on vient de la vivre sous vos yeux. C'est insensé ce qui s'est passé. Carlitos, c'est magique, c'est insensé, c'est beau. Seul le tennis peut nous procurer de telles émotions.
Thomas Ramos qui s'élance, vous entendez la sirène, à moins qu'il la loupe, mais ça prend pas le chemin. Le ballon qui passe entre les paires.
Et c'est Bastien Toulouse qui a gagné.
Toulouse, champion de France, cette génération est inarrêtable. Le triplé pour Toulouse, victoire 39 à 33, comme toujours en finale. Le Stade Toulousain est le roi.
Vous m'avez fait sentir comme un Français de plus. Je ne pourrais plus jouer devant vous. Mais mon cœur et mes souvenirs resteront toujours liés à ce lien magique et à son peuple.
Pour la belle passe de Vitinha pour Doué. Doué,
la frappe arrivée derrière, le contre.
Toujours le contrôle pour Mayoulou. Mayoulou la frappe pour Toronto. Oh là 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 là. C'est la fête. C'est la fête qui gagne. C'est terminé. C'est fini. Paris sur le toit de l'Europe. 14 ans d'attente pour les propriétaires qataris. 32 ans après Marseille. Le football français remporte une deuxième Ligue des Champions. Et peut-être ça fait du bien.
Putain, ça fait du bien. Dixit Jeannot et Segui. Une année 2025.
C'est pas qu'on était les journalistes d'RTL.
On salue Jeannot, évidemment. Oui. Journaliste émérite d'AMC pendant des années, des décennies même. Une année 2025 donc riche en rebondissements pour le sport français et pour le sport en général. D'ailleurs, chacun aura ses moments marquants et on déterminera ensuite celui qui aura le plus marqué l'année 2025. Vous êtes nombreux aussi à nous envoyer des messages. On lira aussi tout ça après pour voir ce qui vous a le plus marqué. Christophe, sur quoi tu voulais revenir, toi ?
Moi, je voulais revenir. Alors, sur une course, j'ai cherché une course cycliste.
Étonnant.
Le Tour de France, bon, c'était bien, mais c'était pas non plus
un suspense total
par terre. Non, en fait, la course pour moi qui a été la plus excitante en 2025, c'est une course que Pogacar n'a pas réussi à gagner. C'est quand même assez rare, hein, d'en
trouver. Fallait la trouver déjà.
Voilà. C'est une course qu'on baptise l'Enfer du Nord et que, une fois l'an, au mois d'avril, secouent les coureurs, leur trip et leur vélo sur 259 kilomètres, dont 55 kilomètres sur
les
fameux pavés de l'Enfer. Une véritable saloperie, c'est comme ça que l'appelait Bernard Hinault en son temps, qui avait quand même tenu à remporter cette course avec le maillot de champion du monde sur les épaules. C'était en 81. Depuis, cette course dangereuse et difficile n'avait jamais plus réussi à attirer dans ses filets les hommes du mois de juillet, les poids légers, plus à l'aise en montagne que sur les pavés, et qui ne voulaient surtout pas risquer la suite de leur saison sur une mauvaise chute dans les pavés de Paris-Roubaix. Mais en 2025, un champion, le champion de tous les champions, a voulu relever le défi et essayer de battre sur son terrain le roi des classiques flandriennes, un certain Mathieu Van Der Poel, le seul coureur encore capable de tenir tête à la toute puissance de Poggi. Et cela a donné lieu à une bagarre d'anthologie. C'était le 13 avril dernier entre Compiègne et Roubaix. Jamais sans doute Paris-Roubaix depuis 20-30 ans n'avait suscité un tel engouement avant le départ de la course et on n'a pas été déçus. On a assisté à une course incroyable qui s'est décomptée dès la trouée d'Arambert où les deux hommes se sont livrés à mano incroyable et où l'expérience, le manque d'expérience de Pogacar lui a été préjudiciable puisque dans un virage à droite, eh ben il a fait tout droit, Poggi. Et oui, il faut savoir conduire, piloter son vélo quand on fait Paris-Roubaix, chose que fait à merveille Mathieu Van Der Poel, mais que Pogacar ne savait pas encore faire. Et du coup, eh ben il a laissé s'envoler le Néerlandais, il l'a plus jamais vu jusqu'à la ligne d'arrivée. Ça a été un moment incroyable parce que voir Pogacar battu à la régulière, c'est rare. Et ça l'a tellement énervé qu'il a fait de Paris-Roubaix 2026 son objectif principal. Il veut gagner Paris-Roubaix plus que le Tour de France, plus que le championnat du monde, parce que quand on est un champion de sa trempe et qu'on a été battu une fois, on ne rêve que d'une chose, c'est prendre sa revanche. Donc vivement le 12 avril prochain.
Ça, c'est vraiment les soucis des gens qui gagnent tout. C'est-à-dire que s'il y a un titre qui leur échappe, ils vont en faire une obsession.
Ça va, t'es tranquille, toi.
Ah bah oui, moi j'avais beaucoup de cases à cocher encore. Hein, donc.
Mais on sent encore, Chris, quand tu le racontes, que t'as encore plein d'émotions. On l'a vécu évidemment sur RMC aussi avec toi. Il y avait, tu le disais aussi, énormément d'attractions parce que Pogacar, à chaque fois qu'il est là, de toute façon, c'est une attraction, mais encore plus sur une course où d'habitude, ben oui, il ne s'aligne pas.
Parce que les hommes du mois de juillet ne viennent pas sur Paris-Roubaix. On ne verra jamais Vingegaard qui a quand même gagné deux fois le Tour de France. On n'a jamais vu Chris Froome qui l'avait gagné quatre fois. Tous les grands champions depuis Bernard Hinault ont évité Paris-Roubaix parce que on dit que c'est une course très dangereuse. C'est vrai que tu te fais secouer la poire tellement pendant 250
km. On se demande un peu qui a eu l'idée quand même, hein, parce que pourquoi les rouler sur des pavés avec des
mais en fait c'est une course héritée du passé à l'époque.
Non mais après nous on l'aime bien, c'est
même,
vraiment
même après guerre, même après la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, les routes en France étaient loin d'être ce qu'elles sont aujourd'hui et c'était l'apogée de la course cycliste à l'époque. Et mais effectivement les mecs roulaient sur des pistes, ils roulaient en montagne sur de la terre battue avec des caillasses qui leur tombaient sur le coin de la tête. Les routes françaises dans l'état dans lequel elles sont aujourd'hui, c'est quand même assez récent. Et donc, c'était.
Mais bon,
pendant un temps, Paris-Roubaix n'était même pas une course à pavés. C'est-à-dire que les pavés, on est allé les chercher dans les chemins des paysans pour en faire une course cycliste. Donc, c'est une course
qui est devenue mythique aujourd'hui et qui est le Graal pour beaucoup de coureurs cyclistes. Alice et Fred, convaincus par Christophe ou pas?
C'est drôle la vie quand même parce que je pensais.
Alors là, tu réponds pas du tout à la question.
En fait, je commence. C'est drôle la vie parce qu'il y a 10 minutes, parce qu'il a commencé au moins il y a 10 minutes, Christophe. J'étais pas du tout convaincu.
On a une grande gueule en moins, donc il faut faire un peu.
Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que je pensais pas du tout à cette course. Effectivement, ça avait marqué les esprits parce que tout le monde se disait Pogacar sur cette course, c'est incroyable. Sauf que quand Christophe te la raconte, tout le monde s'est tué sur le plateau. Tout le monde était comme ça. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas choisi ça finalement? Alors, après j'ai compris.
C'est un très très gros compliment.
J'avais pas le talent d'orateur de Christophe. C'est pour ça que j'ai pas choisi. Mais c'était magnifique. Et effectivement, c'est vrai que ça nous a donné les frissons de voir Pogacar ne pas gagner. Se dire que l'année prochaine, il va être chaud comme la braise. Donc, oui.
Il y avait de la dramaturgie.
Comme d'habitude, un bon choix de Christophe, c'est sûr.
Convaincu. Alizé aussi, t'es convaincu. Parfait. Chris, t'étais très fort, hein. Et qui c'est tes arguments pour
ton deuxième événement?
C'est ça. Fred, tu vas essayer de faire aussi bien quand même que Christophe, mais il faut que tu sois passionné. Qu'est-ce qui t'a fait vibrer dans cette année 2025?
Moi, ce qui m'a fait vibrer, c'est très parisien, c'est surprenant parce que moi, je viens de Limoges quand même. et en fait, ce qui s'est passé avec ce PSG-là, moi, j'ai trouvé ça fantastique parce que je viens de cette génération où Marseille avait gagné et qu'on attendait depuis des années et des années et des années qu'on puisse gagner une Ligue des Champions. On attendait surtout que qu'une équipe nous fasse vibrer parce que ça joue collectif, parce qu'il n'y a pas une tête qui dépasse, même si Ousmane Dembélé dépasser un petit peu ce jeu collectif, cette équipe, cet esprit d'équipe, cette capacité à aller très loin, à nous faire rêver, à nous faire sentir parisiens tous. Et encore une fois, je me répète, je ne suis pas du tout parisien.
Non, mais fédérer un petit peu
avec eux. Mais ça a fédéré tout le monde parce que leur jeu, parce que leur façon d'être, parce que le plaisir qu'on prenait sur le terrain et parce que cette deuxième Ligue des Champions. Et donc, honnêtement, moi, ce Paris m'a fait rêver. Moi, j'aime les sports qui rassemblent et forcément, le sport, ça rassemble encore plus quand tu gagnes, évidemment. Mais l'attitude de cette équipe était plaisante. plaisante. Les voir jouer, c'était plaisant. Les voir performer, c'était présent. Et donc, je me dis que même les Marseillais, je pense qu'on aimait ce moment. Alors, à un moment dans leur cœur, je pense qu'ils ont été déchirés un petit peu, forcément. Mais il faut qu'ils se rappellent d'un truc. À jamais les premiers. Les premiers, c'est toujours plus important que quoi que ce soit. Mais.
Oui, mais ils auraient bien aimé rester les seuls, surtout.
Évidemment, mais en tant que Français, moi, j'ai ressenti une fierté. Encore une fois, c'est le sport le plus mondial qui existe. Et je trouve que ça rassemblait tellement de personnes différentes. Et surtout, quand on parle à un basketteur comme moi qui est vraiment plus passionné par le basket que les autres sports, ben ça a réussi à m'emporter. J'avais envie de voir les résultats du PSG, j'avais envie de les voir jouer, j'avais envie de les voir performer. Donc moi, ça m'a vraiment marqué cette épopée parisienne, vraiment.
Et avec Ousmane Dembélé aussi.
Et avec Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, évidemment. Et
ça Ousmane, aussi, ça
Ballon d'Or,
pas si
et Ousmane, est-ce que, Ballon d'Or.
C'est vrai que ça a été un moment magique, mais moi j'ai été un peu déçu par la finale, parce que une finale, t'as envie que ce soit serré, t'as c'est envie vrai. De vibrer jusqu'à la fin, tu vois.
Après les finales, c'est toujours un peu
tendu. J'ai envie d'écraser les autres, j'étais ravi de les écraser, c'était magnifique.
Ah ouais, mais bon, moi j'aurais préféré un match serré avec la victoire. Je veux dire, par exemple, la dernière finale, même si ça s'est pas conclu du bon côté pour nous, mais la dernière finale de la Coupe du Monde, elle a suscité beaucoup plus de
scénarios.
De tension.
Oui, mais Christophe, tu pouvais imaginer qu'une équipe française soit aussi dans la domination que ce qu'on a vu ça, là. Est-ce que la fierté est pas plus. Alors, je comprends la dramaturgie de la finale et même de certains matchs, j'entends ce que tu dis. Mais après, se dire qu'une équipe française a réussi à dominer à ce point une compétition qui nous fuyait depuis autant d'années. Bah, je trouve ça magnifique.
C'est aujourd'hui, oui, le PSG vu comme la meilleure équipe.
C'est le parcours.
Le parcours du Paris Saint-Germain,
c'est le chemin
extraordinaire. Mais la finale m'a pas suscité plus que.
C'était pas la conclusion qui te faisait vibrer.
Qu'il gagne à la 90e minute.
Ça aurait pu être la cerise sur le gâteau, mais ça n'a été que la confirmation entre guillemets de l'épopée. C'était déjà
une cerise. C'était un pamplemousse, quoi.
C'est à dire qu'on a pu fêter dès le début quasiment, parce que comme c'est génial.
On a Sylvain au 32-16 qui est avec nous ce matin et qui est d'accord avec toi, Fred, pour sur cette victoire du PSG. Salut Sylvain.
Ouais, bonjour à tous.
Bonjour.
Miracle de Noël, pour une fois je suis d'accord avec Fred Weiss. C'est très rare.
Tout c'est arrive. Magnifique, tu vois comme quoi ça peut arriver.
C'est un miracle de Noël, mon cher Fred.
Joyeux Noël à toi.
Non, mais c'est vrai qu'on attendait ça depuis plus de 30 ans qu'un club français gagne la Ligue des Champions. Elle est enfin, ça a arrivé. On a le Paris Saint-Germain, le plus grand club de France. Bon, évidemment, je suis supporter parisien depuis plus de 30 ans. Donc,
ça ne s'entend pas du tout.
Voilà, évidemment. Donc, enfin, un club français gagne la Ligue des Champions. Combien de fois j'ai entendu des consultants, des journalistes dire quand un club français va gagner la Ligue des Champions ? Ben voilà, ça y est, c'est fait cette année. 5-0 contre l'Inter, j'ai entendu Christophe dire tout à l'heure, oui, mais la dramaturgie de la finale, ok, mais il y avait un club en face du PSG. Il y avait l'Inter, et l'Inter a fait une finale de merde. Donc, évidemment... Pour faire un grand match, il faut deux clubs, mon cher Christophe. Donc,
T'as raison. Mais j'aurais bien voulu qu'il y ait deux clubs ce jour-là. Moi,
t'as raison.
Moi, c'est le seul truc. Après, j'étais ravi, évidemment,
pourtant, oui,
que Paris gagne. Mais moi, ma conception du sport, c'est un truc un peu disputé où t'as vraiment une bagarre entre les deux. Et ce jour-là, le match en lui-même m'a pas fait bondir.
Ma conception du sport, c'est écraser les autres, c'est mieux.
C'est le truc, quoi. Mais moi, parce que moi, je suis pas supporter du PSG, donc c'est peut-être la raison pour laquelle, tu vois, je préfère. Le spectacle, je préfère le grand match et le vainqueur à la fin de demain plutôt que une formalité, 5 buts,
donc alors, quoi. Si je te suis bien, Christophe, donc t'as dû t'emmerder grave autour de
France. Non, parce que figure-toi que j'étais à une fête avec plein de copains et on faisait la fête tous ensemble et il y avait une ambiance géniale. Et
autour
tout le monde,
de France,
et
il a dit.
Et on avait.
C'est le problème de Christophe, c'est qu'il n'écoute pas
ce qu'on
lui
dit. On avait une copine marseillaise dans la salle qui passait devant le grand écran et qui nous faisait des doigts comme ça. Qui passait et qui repassait. Donc, bon, une super ambiance. Mais
Sylvain, est-ce qu'il y a un autre événement qui t'a marqué cette année, le PSG ?
Eh ben, je suis fou également de cyclisme. Donc, la victoire de Pauline Ferrand-Prévot par Paris-Roubaix autour de France féminin. Je crois que voilà, c'est
toute la saison de Pauline Ferrand-Prévot.
Toute la saison de Pauline Ferrand-Prévot, effectivement, après le titre olympique de 2024. Donc voilà, c'est une grande dame du sport français. Voilà, donc c'est ça qui m'a marqué en deuxième position. Et je dirais en troisième position, la finale de Roland-Garros masculin qui a été historique. qui m'a fait vibrer du début à la fin. Donc voilà, je crois que c'est mes trois gros événements.
Et en quatrième position, que comme j'ai commencé à énumérer.
Non mais on fait un petit podium, oh, Frédéric.
On était d'accord, c'est fini. Moi, ça me va pas du tout. Je préfère quand on n'est pas d'accord, donc il faut que je lui mette un petit tir.
Est-ce que je peux vous suggérer quelque chose, si vous me permettez 10 secondes, simplement. Pour une bonne résolution de 2026 pour les GG, ce serait bien d'inclure dans votre équipe un athlète paralympique. Je vous le dis depuis très longtemps sur le groupe WhatsApp, dans les grandes gueules du sport, ce serait bien, ce serait cool. Moi, je suis non-voyant, je suis fou de sport, et je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas d'athlète paralympique autour de la table.
Voilà, eh bien, la résolution est entendue, et on va essayer justement de s'y tenir pour cette année 2026. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir été avec nous ce matin. C'est vrai que Pauline Ferrand-Prévot, quand même, on peut d'ailleurs parler... Moi, j'ai pas peur de le dire, de peut-être de l'une des meilleures athlètes françaises de l'histoire, tout simplement, parce que ce qu'elle a réalisé dans sa carrière est quand même assez incroyable. Alizé, je me tourne vers toi parce que tu es la femme autour de ce plateau avec moi, mais c'est vrai que c'est quand même assez incroyable ce qu'elle a réalisé.
Oui, et c'est pas fini. Elle est encore jeune, elle a encore beaucoup d'exploits devant elle, probablement.
Donc, et d'ambition.
C'est un très
plus.
Bon choix. Mmh. Et je pense que c'était l'un des choix de Sarah Pitkowski.
Exactement.
Bah, moi, j'avais proposé le choix et puis finalement, je l'ai laissé à Sarah. Mais comme
tu peux nous dire un mot de Pauline Ferrand-Prévot.
Non, mais Pauline, ce qu'elle a réalisé cette année, c'est tout simplement exceptionnel. Mmh. Ça fait 40 ans qu'on attend qu'un Français, qu'une Française gagne le tour, même si Jeannie Longo l'a remporté dans cette période-là, un peu plus tard, dans les années 89-90, je crois. Mais ce qu'a réussi Pauline, la trilogie est extraordinaire. C'est-à-dire championne olympique de VTT l'année dernière, vainqueur de Paris-Roubaix cette année, alors qu'elle avait quasiment jamais fait de grandes classiques, et quelques semaines plus tard, vainqueur du Tour de France. Et de quelle manière elle a remporté ce Tour de France ? Donc franchement, c'est la championne française de l'année sans aucune contestation possible. Ouais. Il aurait fallu que Loïs Boisson aille jusqu'en finale également pour éventuellement la challenger, mais il n'y a personne qui lui arrive aujourd'hui à la cheville.
Pauline est loin devant pour l'instant en termes de performance.
Et en plus, cette victoire dans le Tour de France lui a donné encore plus d'ambition. L'année prochaine, elle sera là. Elle a envie. C'était pas one shot.
Ouais.
Parce que certains coureurs,
c'est pour ça que je pense qu'elle a encore de très très belles années, parce que l'appétit vient en mangeant. Elle se rend compte de quoi elle est capable. Ouais. Et là, à mon avis, ça va.
Le seul truc, c'est qu'elle a dépassé la trentaine et que.
Mais moi, j'ai choisi Lynn Sevone, 41 ans, descendue de Saint-Moritz. Elle a 10 ans devant elle, potentiellement, même si on sait que c'est un sport traumatisant. Oui, c'est pas évident. Mais le ski aussi.
Alors, tu voulais nous parler de Lynn Sevone, du coup, transition parfaite, Alizé.
Ouais, mais c'était pas le premier événement dont je voulais parler, mais.
Comme tu l'as évoqué, écoute, on y va.
Bah, Lynn Sevone, moi, j'ai failli pleurer avec elle quand j'ai vu ses larmes sur le podium, victorieuse de la descente de Saint-Moritz, 5 ans après sa dernière course. Je trouve que c'est un exemple, c'est une extraterrestre, en fait. Tout simplement, c'est un exemple de résilience. Quelles ont été les raisons pour lesquelles elle a voulu revenir alors qu'on pensait tous qu'elle avait quand même terminé sa carrière? À 35 ans, ce qui était déjà un âge, on le sait, Flora, à 35 ans, toutes les deux, un âge très honorable. Et non, elle a voulu repousser les limites de son sport, revenir, passer la quarantaine, regagner une course de cette ampleur, en mettant une seconde à chacune de ses adversaires. Moi, je trouve ça juste fantastique. Et voilà, et ce podium, il m'a vraiment pris au trip. J'ai essayé de se mettre à sa place, d'essayer de retracer ce parcours avec cette première partie de carrière déjà complètement incroyable. Et là, elle arrive, elle revient. Et au bout de ça, quoi, deuxième ou troisième course ? Deuxième course ?
Elle en avait un petit peu refait auparavant, mais oui, c'est ça. Troisième course de l'année.
La prouesse physique et mentale, pour moi, est tout simplement hors du commun.
Et c'est une championne qui, à la différence de ce dont on va parler tout à l'heure, avec ce match truqué en tennis...
la bataille des sexes qui nous attend là.
Je ne voyais pas où tu voulais en venir.
Elle a un jour voulu se bagarrer avec les garçons. Elle voulait faire une descente homme. Mmh. On ne l'a pas autorisé à le faire. Mais elle ne voulait pas qu'on raccourcisse les bosses, qu'on mette des virages
spéciaux. Mais je ne pense pas que Sabalenka ait voulu raccourcir les bosses.
Comment elle a pu l'accepter ?
Alors, on fera le débat tout à l'heure sur la bataille des sexes en fin d'émission. Mais a priori, on est tous convaincus par évidemment la victoire de Lynn Sevone et son retour au plus haut niveau.
Et on espère qu'elle sera championne olympique dans quelques
temps. C'est ça aussi, c'est qu'il y aura cette histoire qui va se poursuivre.
Ma curiosité, c'est jusqu'où elle va aller, parce qu'elle a quand même 41 ans. non, à un moment donné, elle va forcément.
Alors, elle s'arrête à la fin de la saison, ça c'est sûr. Elle s'arrête sur les Jeux Olympiques. Elle s'arrête
et
sur
elle
cette descente.
Elle reprend dans 5 ans après.
Elle s'arrête sur cette descente de Cortina qui.
Elle l'a déjà annoncé.
Qui est une course particulière pour elle parce que c'est là où elle a battu son record, c'est là où elle a remporté sa première épreuve de Coupe du Monde. Donc, elle voulait vraiment terminer en beauté au sommet.
Elle annonce la couleur. C'est vraiment un signal très très fort qu'elle envoie et elle l'envoie tellement rapidement après sa reprise. C'est ça qui m'impressionne.
Et ce sera l'une des attractions évidemment de ces Jeux Olympiques que vous suivrez sur RMC avec Christophe Cessieux notamment. 10h26 sur RMC, les grandes gueules du sport reviennent dans quelques instants avec la punchline des GG et Max Verstappen qui pourrait quitter la F1. Est-ce que vous y croyez ou non? Et bien sûr, le vestiaire des GG, comment on fait pour faire la fête quand on est sportif de haut niveau? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussi.
Il est 10h30 sur RMC. On continue de remonter le temps et l'année 2025 avec nos GG. On revient sur les événements qui vous ont le plus marqué cette année. Christophe Cessieux, Fred Weiss, Alizé Cornet. Vous nous parliez tout à l'heure du PSG qui a remporté la Ligue des Champions, de Pauline Ferrand-Prévot, vainqueur du Tour de France, du duel aussi entre Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel sur Paris-Roubaix. On continue de regarder dans le rétro, sans oublier l'Inseven, évidemment. Chris, quel était ton deuxième événement le plus marquant de cette année 2025?
Alors, vous vous souvenez certainement de la petite phrase restée célèbre du footballeur anglais Gary Lineker, qui dans les années 80 disait que le football est un jeu qui se joue à 11 contre 11 et où à la fin c'est toujours l'Allemagne qui gagne.
Ouais.
Eh bien, en rugby, on pourrait dire un peu la même chose du Stade Toulousain, par exemple. Cet épouvantail de l'Ovalie de France qui, depuis des décennies, ruine systématiquement tous les mois de juin les espoirs des clubs rivaux qui rêvent de toucher le fameux bout de bois, ce bouclier de Brennus qui récompense un champion de France, mais qui ne font la plupart du temps que de le toucher du bout de l'œil, parce que c'est la propriété exclusive de ce club toulousain qui en juin dernier s'est donc adjugé un 24e Brennus. Ça vous pose un club et ça fait surtout 10 de plus que son dauphin, le Stade Français, qui fait un peu rikiki avec ses 14 titres seulement. Alors on pourrait se lasser de ces finales où l'on connaît le vainqueur avant même que le match ne commence. D'ailleurs, moi, l'été dernier, je vais vous faire un aveu. Un an après la mémorable rouste infligée par ce même Stade Toulousain à l'UBB, qu'on avait retrouvé éparpillé aux quatre points de Paris par façon puzzle, comme disaient les tontons flingueurs, battu 59-3, eh bien, je m'étais dit, cette fois, je passe mon tour. Ben non, j'irai pas à la finale. J'ai une énorme teuf. Et je préfère aller faire la fête plutôt que de voir encore une boucherie de rugby. Je regarderai la fin de ce match sur mon téléphone. C'est ce qu'on appelle puer le rugby. On appelle sentir vraiment les choses, les voir venir, un peu comme Denis lorsqu'il parie sur un match. On sait qu'il parie toujours sur le match nul à la mi-temps, ça n'arrive jamais, sauf les fois où il ne parie pas. Et donc, avec mon flair de chien truffier, j'ai réussi à rater la finale du siècle. Faut le faire. Un match dingue où il a fallu attendre la fin de la prolongation pour que finalement l'adage de Gary Lineker se vérifie et que Toulouse finisse par s'imposer 39-33. Ça a été un match dingue. Figurez-vous qu'à la fête à laquelle j'étais, tout le monde était sur le canapé, tout le monde squattait sur le canapé, personne ne bouffait le gâteau.
Pour
tout le monde était là à regarder la fin de cette finale. Ça m'apprendra à accepter des fêtes un soir de finale, car même si Toulouse gagne toujours la fin, parfois ses adversaires savent lui donner du fil à retordre. Et avis à tous mes copains, le 27 juin prochain, je ne suis pas dispo. Je bosse, j'ai
déjà jeté.
Et je serai inflexible sur ce coup-là.
On verra si tu tiens cette résolution. Chris, là, tu avais eu en tout cas ton scénario dont tu parlais de lors des finales et qui est si important.
Ah, voilà, la finale, la vraie, mais c'est vrai que c'est pas toujours le cas. L'année précédente, l'UBB n'avait pas existé. Et puis cette année, c'est vrai qu'ils se sont vraiment renforcés et ils ont donné du fil à retordre. Mais bon, à la fin, c'est toujours Toulouse qui gagne. Mais sait-on jamais, peut-être qu'un jour, Bordeaux réussira, ou La Rochelle, ou Toulon.
Il y a des concurrents, en tout cas. Bon, vous êtes convaincu, Fred, Alizé, encore une fois, par.
De pas aller à des fêtes quand il y a un gros match.
Moi, ça
vous est arrivé, ça t'arrive de louper des gros matchs pour aller faire la fête?
Non.
Non,
j'ai. Ça n'existe pas au basket. On a eu une rigueur un petit peu dans
le basket. Vous jouez tous les jours. Donc, toi, tu fais jamais la fête.
Moi, je ne suis pas la fête.
Bah, c'est pas
le basket, tu es dessus, tu comprends.
J'ai pas d'amis. C'est normal, vu comme tu leur parles.
Ah ouais, c'est ça. Pose-toi les bonnes questions, Fred.
Mais merci beaucoup.
Je le prends très bien. T'es content d'être venu ce
matin. J'ai bien fait de venir. Oui, j'ai regardé que je pensais que tu serais la prochaine.
Alizé, tu nous as parlé de Lynn Seven tout à l'heure. Quel est ton deuxième moment marquant? Ou peut-être qu'il était le premier d'ailleurs.
Alors, moi, j'ai choisi un événement qui s'est passé pendant Roland Garros, mais non, ce n'est pas la finale de Roland Garros. Bien.
C'est un peu dommage, c'était une belle finale quand même.
Oui.
Ah oui.
C'est une très belle finale, mais justement, j'en parlerai à la fin de mon petit exposé. Moi, ce qui m'a beaucoup ému, beaucoup touché, c'est l'hommage rendu par le tournoi de Roland Garros à Rafael Nadal pour la fin de sa carrière. J'étais sur place. J'ai eu la chance d'être sur place, de recevoir mon petit t-shirt avec le Merci Rafa dessus, de voir les tribunes s'orner d'un petit dessin en l'hommage de Rafa et de cette cérémonie très simple, sobre, mais en même temps à son image. Très vrai, de son discours français où on se demande, après toutes ces années passées en France, comment ça se fait qu'il parle pas un petit peu mieux français, où il a quand même un accent à couper au couteau, on se demande même s'il comprend ce qu'il dit, mais ça reste quand même très émouvant.
Il parle français comme une vache anglaise.
Et puis voilà, tout son staff, sa famille, son entourage réuni dans les tribunes, et il y avait vraiment une émotion palpable qui a touché beaucoup de monde, que ce soit dans le stade et même les téléspectateurs devant leur télé. Et puis alors moi, il y a eu vraiment un moment au-dessus de tous les autres qui m'a transporté, c'est quand le Big Four s'est retrouvé réuni sur le court avec l'arrivée de Andy Murray, Novak Djokovic et Roger Federer qui sont arrivés avec une musique bien à propos sur le court. Et là, on a vu ce Big Four réuni. On a senti qu'ils savaient pas trop quoi faire. Il y avait une sorte de petit moment en suspens, mais en fait, toute la symbolique du moment, moi, m'a vraiment arraché une larme parce que je me suis dit, ça y est, c'est la fin du maire, ou presque. Il reste plus que Novak Djokovic parmi ses quatre guerriers, ses quatre champions. Mais au final, d'ici un ou deux ans, alors on ne sait pas combien de temps Novak Djokovic va jouer, mais ça risque d'être la fin définitive de cette ère incroyable. Et moi, ce que je retiens aussi de ce Roland-Garros, c'est aussi la symbolique de cette finale entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. Seulement 15 jours plus tard, 15 jours après cet hommage, finalement, comme si ces deux-là, cette nouvelle génération, avait envie de dire ouais, c'est la fin d'une ère, mais regardez ce qui vous attend, regardez ce qu'on peut vous produire sur le court. Et ces deux-là, du haut de leurs 22-23 ans, ont livré une finale historique, hors du commun, anthologique. Et c'est vrai que ça faisait comme une sorte de passage de témoin, finalement, entre cet hommage de Rafael Nadal et cette finale de Roland Garros que personne ne pourra jamais oublier. J'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé que ça a donné une quinzaine en plus avec, c'est vrai, l'épopée de Loïs Boisson par-dessus le tas, mais que ça donnait une quinzaine très émouvante. Et voilà, un passage de relais entre l'ancienne et la nouvelle génération qui, moi, ne m'a pas laissé indifférente.
Et c'est vrai que pendant très longtemps, on se disait, pourvu qu'ils n'arrêtent pas, pourvu que les trois continuent, parce que
on
la sentait pas,
feed,
la next gen, on la sentait pas.
Et maintenant,
on
a hâte de
qualités.
Voir ce que la next gen va nous réserver.
On a surtout hâte de voir s'il y en a un qui peut venir s'immiscer dans la bagarre et devenir le Djokovic.
On a un sacré duo au sommet.
Nadal et Federer, quoi. Mais je ne sais pas s'il y en aura un capable de rentrer dans
la bagarre. On aimerait bien que le duo devienne un trio, voire même un quatuor, et d'avoir un petit peu plus
qui viendrait se mêler à la bagarre.
Pour l'instant, ils ne laissent pas leur part du gâteau à qui que ce soit. Et je pense que ça va être très dur pour le troisième de se frayer un chemin. Mais on a hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Et effectivement, c'est très juste, Christophe. On avait peur de cette fin de domination de la part du Big Three et du Big Four. Mais là, au final, on est juste excité de ce qui nous attend dans le tennis masculin.
Fred, l'événement marquant pour toi, l'autre, tu nous as parlé du PSG en football, en Ligue des Champions.
D'Indiana.
Moi, je vais rester sur Paris et je vais rester sur du basket, évidemment. Ah. On a eu un sujet tarte à la crème avec Alizé qui commence par un truc et finalement on finit par d'autres trucs. Moi, je vais rester constant dans ce dont je vais parler. Le basket. Le basket, c'est pour moi, vous le savez, un sport très important et voir un club.
Le mec est monomaniaque, quoi, tu vois.
j'ai parlé de foot tout à l'heure. Par exemple, t'as parlé de cyclisme et de.
Et de rugby.
T'es deux sports. Monomaniaque.
Tu l'as bien écouté sur le deuxième sujet.
Non, j'écoutais pas vraiment. Le Paris Basketball a gagné son premier titre de championnat de France contre Monaco, qui était censé être l'ogre absolu, qui avait un budget assez incroyable. Et on a trouvé une équipe assez fantastique du côté du Paris Basketball. Il faut se rappeler qu'en 2018, cette équipe est créée avec les droits sportifs de Toulon, donc qui commence en Pro B, mais il y a tout un chemin à faire. Intégrer une équipe qui vient de nulle part, arriver à avoir des fans, des supporters, créer quelque chose à Paris, ça semblait assez impossible au départ. Ça jouait à la Halle Carpentier pour commencer, donc il faut quand même se dire
d'où ils sont partis. Ça sent le basket, ça, la Halle
Carpentier. Oui, ça sent le basket, mais c'est quand même à old school. Donc ça a progressé, ça a travaillé. Des vrais supporters sont venus et on est arrivé au summum de ce que j'ai vu pour l'instant au Paris Basketball l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, quand on parlait de basket en Europe, tout le monde citait le Paris Basketball. En Espagne, les coachs disaient l'équipe qui joue le mieux au basket en Europe actuellement, c'est le Paris Basketball. Donc on a vu quelque chose d'assez extraordinaire l'année dernière. On parle des TJ Short et des Nadir Hiffy, évidemment, qui seront au All-Star Game d'ailleurs ce dimanche.
Mais tu commenteras pour RMC.
Exactement, mais avec seulement des points, parce qu'il y a des matchs de je sais plus quel sport. c'était une vraie fierté de se dire que on a réussi à implanter enfin. Il y a eu des tentatives de basket à Paris. Là, je crois qu'on l'a vraiment implanté. On a une salle dédiée à ça, la Adidas Arena. J'étais super content d'être là. Une finale en 5 matchs, à la fin. Et c'était franchement magnifique à voir. Un plaisir pour les supporters. Et une création de clubs et de supporters, c'est quand même très difficile à faire. Oui. Et pour l'instant, ils l'ont fait, les Parisiens.
Le seul problème du basket en France, c'est que tu peux tenir une saison et que derrière tu te fais piller et tu es obligé de tout recommencer à zéro.
C'est ça, je trouve ça
d'une tristesse incommensurable.
La pérennité d'une équipe.
Tu peux pas. Bah bon, après c'est un peu la même chose dans le foot, mis à part le PSG. Mais aujourd'hui on a tellement peu d'argent dans le foot en France et dans ces sports comme ça. Alors le rugby de son côté a réussi à faire le plus beau championnat domestique au monde.
Je peux me permettre de dire quelque chose sans que ce soit une attaque.
Vous faites piller.
Sans que ce soit une attaque et vraiment ne le prend pas comme tel. Il faut se rendre compte que personne joue en rugby dans le monde. Ouais. Et que forcément, nous, on est en concurrence avec beaucoup plus de pays, et qu'on a un grand frère qui s'appelle la NBA.
Je suis d'accord.
Et c'est très compliqué
de rivaliser. Je suis d'accord qu'il y a personne qui joue au rugby, mais quand tu regardes le championnat de France de rugby, t'as toutes les stars de ce sport, même aussi minime que, aussi lilliputien.
Non, mais ce que je veux dire.
Lilliputien que
à l'échelle mondiale, c'est lilliputien. Oui.
Le problème, c'est qu'en France, tu vois les stars planétaires de ce sport. Pour voir les stars planétaires du
planétaire, c'est un grand mot.
Planétaire de.
C'est le cas. C'est factuel. En l'occurrence,
c'est comme ça. Il faut se lever à 3h du matin pour les voir. Donc, je suis très heureux que le basket existe et que Paris ait fait cette saison. Mais voilà, quoi, ça n'aura duré qu'une saison. Quoi. C'est l'histoire de la cité.
Mais c'était important de revenir dessus. Merci, Fred. On a David qui est avec nous au 32-16. Salut, David.
Oui, bonjour à tous.
Alors, sur quoi tu voulais revenir, toi? Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette année 2025?
Moi, le plus, c'est, je ne sais pas si vous en avez parlé, parce que j'ai pas pris l'émission à 9h. Hein, j'étais pas levé, donc.
Un samedi matin, on peut comprendre, effectivement.
Ouais, je suis en vacances.
Voilà, mais dis-nous tout.
C'est quand même Johan Zarco qui gagne le Grand Prix de France, quoi.
Ah, on en a pas parlé, donc tu fais bien de l'évoquer.
Johan Zarco, quand même, c'est incroyable, ça.
Ouais.
Ça faisait quand même que 71 ans que les Français n'avaient pas gagné. Et ironie du truc, c'est que je vais à tous les Grands Prix de France tous les ans, et cette année, j'étais dans un avion, j'ai pas pu y aller.
Bah, t'as fait une Christophe,
et donc,
là.
Et donc, un Français a gagné, et tous mes copains me disent, ne viens plus, parce que.
C'est mieux quand tu viens pas.
Après, c'est pas super rentable, s'il doit prendre l'avion à chaque fois qu'il y a un Grand Prix, c'est compliqué, quoi.
C'est vrai.
Ouais, non, mais bon, je revenais de vacances, c'était un peu limite, je revenais à 11h, j'avais pas le temps de prendre la moto et d'aller au Mans, c'est dommage, mais c'était pas presque. Et, t'as fait, je sais pas, 25 ans que j'y vais, c'est pas de bol, quoi.
Ouais. Mais ça marque, c'est vrai, t'as raison, c'est l'un des événements de l'année aussi, un Français qui gagne un Grand Prix de moto, dans la catégorie Rennes.
Surtout
dans des conditions très particulières.
Ouais, bien sûr.
Ce départ un peu tronqué, changement de pneus, on savait pas s'il allait pleuvoir, s'il allait pas pleuvoir. Et puis Zarco qui a été énorme, qui a pris des risques, qui a fait les bons choix et qui est allé s'imposer devant tous les cadors, alors qu'il a pas la moto la plus performante. De tout. Il n'a pas une Ducati.
Encore une fois, là, je te rejoins, la force du scénario aussi dans ce genre
Là aussi, c'est ça qui
dans ce genre d'événements sportifs. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous ce matin. Reste avec nous, évidemment, jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport continuent. Je vous donne le résultat du sondage pour vous dire lequel de nos GG ce matin a eu le flair, finalement. Victoire à 57% du Paris Saint-Germain ce matin.
Ça me fait plaisir.
Ça m'aurait serais étonné.
Et 25% derrière pour Pauline Ferrand-Prévot, quand même. Qui
parce que vous êtes trop loin
aussi.
Du peuple, messieurs, dames. C'est pour
en
ça.
Fait, tu as choisi le thème le plus parlant pour tout le monde pour être sûr de gagner. Bravo, Fred.
Il pourrait se faire élire sur une liste.
ça va se tenter.
Ça m'étonnerait pas qu'il soit élu.
Allez, 10h43, 44 même sur RMC, les grandes gueules. Aiguisez vos arguments. On revient dans quelques instants avec la punchline signée Max Verstappen qui menace de quitter la Formule 1. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Messi.
Il est 10h45, les grandes gueules du sport sont de retour avec Alizé Cornet, Fred Weiss et Christophe Cessieux. Et vous aussi qui êtes avec nous en cette période des fêtes, envoyez-nous vos messages au 06 12 424 424. Je vous lis avec attention. Merci à tous pour vos petits messages. Vous êtes très heureux que je sois à la présentation aujourd'hui, c'est toujours sympa. Merci à vous les amis. L'occasion aussi de vous dire que ce week-end dans les grandes gueules du sport, vous allez peut-être remporter votre PC portable Altix 16 pouces et garanti 3 ans. Altix est une marque française d'ordinateurs installée à Nantes avec un vrai ancrage local et leur mission est simple, pour simplifier l'achat d'un PC pour les personnes non initiées à l'informatique. Pour emporter votre PC portable Altix, vous appelez le 3216, touche 4 ou alors vous envoyez sport au 73216, sport au 73216. Vous participerez au jeu du sport tout à l'heure en fin d'émission et le vainqueur remportera le PC portable. Avant d'ouvrir les portes du vestiaire des grandes gueules, la punchline du jour.
RMC, la punchline GG.
Je peux facilement quitter le championnat dès demain. Ce sont les mots de Max Verstappen, quadruple champion du monde de Formule 1, qui a terminé deuxième cette saison de peu derrière Lando Norris. Pourquoi une telle déclaration? Vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez écouté cette saison notre prophète à tous en termes de F1, Jean-Luc Roy, que les règles vont évoluer la saison prochaine. Et du coup, si elles ne sont pas, je cite, assez sympas et fun, Max Verstappen n'aurait aucun mal à se retirer d'une discipline qu'il domine pourtant depuis plusieurs années. Alors, info ou intox, qu'est-ce que vous en pensez, les GG?
La menace. C'est de la menace pour exprimer son mécontentement? Moi, je pense pas.
Très bien. Alizé, Fred.
Max, la menace?
Ouais.
je suis complètement d'accord avec toi.
T'es d'accord?
Avec Alizé.
Chris,
Alizé, ça peut paraître bizarre.
Eh ben moi, je pense qu'il faut prendre ces menaces au sérieux.
D'accord. Alors, tu penses qu'il peut le faire? Que c'est possible qu'un homme qui domine complètement une discipline puisse d'un coup lâcher juste parce que les règles ne l'amusent plus?
Ouais, mais c'est pas la première fois, hein, qu'il émet ce genre de menaces. On sent que ce petit monde ne lui plaît pas vraiment. Il n'aime pas.
C'est un homme un peu important.
La censure exercée par les autorités de la F1 qui l'ont sanctionné dernièrement parce qu'il ouvrait un peu trop sa gueule, parce qu'il disait qu'il pensait, et puis cet énième changement de règles, je suis pas convaincu que ça lui plaise. J'ai l'impression, moi, que Verstappen a presque déjà fait le tour de la question, et qu'à la différence d'un Joko ou d'un Hamilton qui vont aller jusqu'au bout, du bout, pour essayer de marquer de leur empreinte l'histoire de leur sport, essayer de battre record après record, je pense pas que ce soit le moteur principal.
Il l'a dit d'ailleurs, parce qu'il peut évidemment aller chercher les 7 titres de Lewis Hamilton et Michael Schumacher, 7 titres de champion du monde. Il a dit les records, c'est pas un truc qui l'intéresse spécialement. Il court pas après ça. Et c'est pas ce qu'il fait se lever tous les matins.
Non, ce qu'il a envie, lui, ce dont il rêve, et ce pourquoi il est fait, c'est qu'on lui fournisse un volant, qu'on mette du carburant, mais du vrai carburant à l'ancienne, tu vois, dans son réservoir, et qu'on le laisse faire la course et battre tout le monde. C'est ça, c'est l'essence même du sport automobile qui anime, je pense, Max Verstappen. Les réglementations, les changements de pneus, les changements de mettre de plus en plus d'électronique dans la bagnole. Je pense pas que ce soit ça qui le fasse rêver, non.
C'est pas si facile de partir de son sport comme ça. Enfin, c'est pas si facile de claquer la porte parce que
surtout qu'il est encore relativement jeune quand même.
Il est jeune.
Il a plein d'autres rêves, Alizé. Il a plein d'autres rêves.
Il veut gagner.
J'ai lu des choses le concernant.
Il
rêve par exemple de faire les 24 heures du Mans. Il rêve de faire les 24 heures du Mans. Tant que t'es pilote Formule 1 en activité, c'est très très compliqué parce qu'évidemment l'histoire d'assurance et ton sponsor veut pas que t'ailles travailler pour un concurrent. Il a monté une écurie de GT3 et il vient de signer un contrat avec Mercedes, qui est quand même l'ennemi de Red Bull. Il vient de monter un contrat avec Mercedes. Il veut mettre les bagnoles au point et il veut courir avec ses bagnoles. Il a plein de projets, Verstappen.
De toute façon, s'il fait cette déclaration, c'est qu'il y a forcément une petite partie de vérité. Sinon, il ne le dirait pas.
Pas forcément. Mais déjà, sur ça, je ne suis pas d'accord.
Moi, je pense que... Je peux pas parler en son nom, mais de là à franchir le cap là dans à court terme, Moi, j'y crois pas beaucoup. Mais après, qu'il ait envie, effectivement, de manifester son mécontentement, de menacer la profession, parce que bah, c'est Verstappen.
C'est une voix qui porte, ça, c'est sûr.
Il a une voix qui porte, et forcément, il sait qu'il peut changer les choses. Ça me fait un peu penser, à parallèle tennistique, à lorsque la terre battue de Madrid avait changé du orange au bleu, et que Rafael Nadal avait dit, si la terre battue reste bleue, je ne viendrai plus jamais à Madrid. Est-ce qu'il l'aurait fait ou pas?
Ça, les chaussettes.
Est-ce qu'il l'aurait fait ou pas? En l'occurrence, le tournoi de Madrid a rechangé sa couleur de la terre battue pour une terre battue orange, donc ça a fonctionné. Mais il serait quand même peut-être venu finalement avec la terre battue bleue. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu le même système de menace, à savoir, non mais attendez, là, moi je suis plus du tout aligné en accord avec ce qui se passe, vous allez probablement perdre votre meilleur pilote, attention.
Oui, c'est une menace, je le prends comme une menace.
Pour moi, c'est un coup de pression et je pense qu'il ne le pense pas du tout, je pense qu'il a envie de battre les records et ça s'est vu sous cette saison. Quand tu vois cette saison, tu te dis, c'est fini pour lui, et tu vois à quel point il est animé par l'envie de remonter.
Il
a cette mentalité de gagner.
De la bataille.
Oui, mais la bataille, mais je pense
la bataille, mais je suis pas sûr qu'il soit pour battre les records.
Mais non, pas forcément, mais lui il veut gagner tout le temps, il veut continuer gagner. Et je rejoins Alizé, pour moi c'est juste un gros coup de pression en fait, c'est juste pour dire les gars, vous m'avez censuré quand j'ai parlé, ça vous plaisait pas, c'est moi le patron, donc si vous êtes pas content, si ça me plaît pas, si ça correspond pas à ce que je me casse. Sauf que là, qui est-ce qui est en train de faire pipi dans ses culottes? C'est la FIA, en disant on va peut-être vous revoir un peu notre façon de parler à ce gars-là, parce que s'il se barre, on fera beaucoup moins les malins. Donc je pense que c'est juste un concours de celui qui est le plus fort, et je pense que le plus fort c'est Verstappen, donc il est en train d'expliquer à tout le monde, vous voulez que je continue? Vous voulez que le meilleur pilote qui existe, qui pourrait peut-être battre les deux coureurs que, c'est mes conditions maintenant, ou sinon
là où je rejoins peut-être Chris, c'est que c'est quand même une personnalité à part, Max Verstappen, dans le monde de la F1. Il a ce côté un petit peu détaché dont tu parles finalement.
D'abord il rigole que quand il se brûle, il a pas l'air, j'ai pas l'impression qu'il soit heureux.
Mais est-ce que son détachement lui permettrait de s'éloigner de ce monde-là comme ça du jour au lendemain?
Mais du monde de la F1, la
oui,
Formule 1,
pas du monde automobile,
c'est aujourd'hui, c'est le grand, c'est le grand circus,
mais c'est là où il est le plus fort.
Mais c'est pas là où il est le plus fort, c'est parce que c'est la formule la plus compétitive, ou qui attire le plus de monde, ou les circuits,
c'est la catégorie
et
les
grands prix. Il va faire quoi d'autre où il sera aussi bon, Christophe? Il va faire quoi d'autre? Là, c'est le meilleur du monde. On l'a vu encore cette année. Il gagne pas, mais c'est le meilleur du monde.
Ailleurs, qui peut être aussi le meilleur?
En fait, c'est exactement ce genre de choses. Tous les sportifs, on a un moment ce questionnement, à savoir est-ce qu'on pourrait être bon en faisant autre chose. Sauf qu'à un moment, on se rend compte de la réalité, on revient à nos premiers amours. Et je pense que
je veux pas dire qu'il y reviendra pas.
Oui, mais
il pourrait très bien y revenir.
Ça peut faire une pause. Je suis d'accord avec toi.
Faire un comeback incroyable.
Est-ce qu'il partirait de cette manière-là? Ou est-ce qu'il partirait juste de manière apaisée en disant voilà, j'ai envie de me challenger sur autre chose?
Je suis pas sûr que ce soit quelqu'un d'apaisé. Non, mais vraiment,
de toute façon, il n'y a pas de champion apaisé, ça n'existe pas.
Mais ça se voit.
Je suis pas sûr qu'il soit encore très bien dans son écurie Red Bull. Horner est passé et parti. Bon, ils n'étaient pas dans les meilleurs termes, mais Marco part aussi. C'est une écurie qui était vraiment faite à sa main. J'ai pas l'impression qu'il a envie de rester plus que ça dans cette écurie. Et peut-être aussi a-t-il les premiers échos des tests qui ont été faits sur les nouvelles voitures. Et que
parce qu'il évoque ces nouvelles règles. Alors, il ne rentre pas dans le détail technique. Lui, il dit qu'il veut que les règles soient fun et sympas. Alors, vous comprenez ce que vous voulez avec ce genre de phrase.
C'est-à-dire il veut de la conduite, quoi.
Peut-être qu'il veut simplement que cette concurrence qu'il cherche, et qu'il a cherché toute la saison et qu'il a réussi à avoir finalement avec les McLaren, peut-être que c'est ça aussi qu'il recherche. Après, il a aussi parlé, alors info ou intox, mais il parle aussi de qu'il a d'autres passions dans la vie, d'autres disciplines, et qu'il a surtout envie de passer du temps aussi avec sa famille. Alizé, c'est ce que c'est d'être sur la route en permanence. Les pilotes de Formule 1 aussi ont une vie très particulière.
Oui, mais il le sait depuis le début, et je pense qu'il aime ça. Au fond de lui, il aime ça, et je pense qu'on aime tous ça au fond de nous. C'est mais de là à dire je suis le meilleur dans mon domaine et m'arrêter, je veux bien qu'il soit fantasque, mais
après,
là c'est plus fantasque.
Tu pars au plus haut niveau, tu pars à ton sommet.
Tu connais beaucoup d'anciens sportifs qui se sont arrêtés au plus haut niveau.
Non, ouais, c'est pour ça que je te dis que peut-être que beaucoup l'ont regretté.
C'est vraiment très très rare.
C'est rare, mais si ça vient de raisons familiales et d'une lassitude finalement dans son mode de vie, ça c'est quand même difficile à combattre pour le coup. Moi j'ai pas encore une fois tout étonnant les.
Tu penses que cette année ça a été une lassitude pour lui?
Non,
je pense qu'au contraire,
c'était une année magnifique pour lui.
Mais comment il le vit à l'intérieur par rapport à son cadre familial, ça on sait pas en fait.
C'est un jeune papa, on rappelle.
C'est un jeune papa.
Ça change beaucoup de choses.
Qu'est-ce qui peut rentrer dans la légende et justement, quand tu es. Alors, réellement.
Mais le sportif prend le pas sur l'homme.
Et encore plus dans la légende, bah, je trouve ça fantastique, en fait.
Ouais, mais je suis pas sûr qu'il se nourrisse de ça, moi. Je suis pas convaincu. Tu vois, autant à Hamilton, qui a battu tous les records et qui continue, même si sa voiture est plus performante et qui s'entête quelque part. Je pense que lui s'inscrit dans la même veine que Djokovic, mais j'ai pas l'impression. Enfin, c'est pas l'impression qu'il donne, en tout cas, que Verstappen soit fait de la même.
La saison de Formule 1 qui, on le rappelle, va vite reprendre, puisque les premiers essais d'intersaison seront fin janvier sur le circuit de Barcelone. 10h55 sur AMC, c'est la dernière ligne droite des GG du sport. On va ouvrir les portes du vestiaire pour savoir si nos grandes gueules ici présentes avaient l'habitude de faire la fête pendant leur carrière ou pas. Et est-ce seulement possible quand on est un sportif de haut niveau? Et puis sur le buzzer, on parlera de la bataille des sexes, ce match de tennis entre une femme, Aryna Sabalenka, et un homme, Nick Kyrgios, qui fait beaucoup parler. À tout de suite sur AMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.